débat du jour.
Romain Ouzoui.
Bonsoir à tous. Gros plan sur l'Irak ce soir dans le débat du jour. Le pays qui dispose d'une nouvelle organisation politique qui aura peut-être des conséquences sur l'équilibre de la région. Nos experts vont nous le dire dans un instant. Une alliance surprise, en effet, a été conclue pour diriger le pays lors des 4 prochaines années. Alliance des deux listes qui sont arrivées en tête lors des législatives du 12 mai dernier, à savoir la liste du nationaliste Moqtada Sadr et la liste d'anciens combattants anti-djihadistes proches de l'Iran. Qu'est-ce qu'il faut penser de l'influence de Téhéran qui intervient 30 ans après la fin de la guerre Iran-Irak, facteur de stabilité ou de chaos? C'est notre question ce soir. Et pour en débattre, à mes côtés en studio, Gérard Chalian, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes géopoliticien spécialiste de l'étude des guerres et des conflits armés internationaux. Et en ligne avec nous, Myriam Benrad, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur en sciences politiques et en études de sécurité à l'université de Leiden aux Pays-Bas. Alors, pour que les auditeurs comprennent bien la situation actuelle en Irak, est-ce que, Gérard Chalian, vous pouvez camper le décor? L'alliance surprise donc que je viens d'évoquer est le fruit des législatives du 12 mai dernier, il faut le dire d'abord. Ces législatives étaient les premières depuis la victoire de Bagdad sur le groupe État islamique.
En effet, c'est une recomposition avec une longue période d'hostilité ouverte avec l'État islamique qui a été finalement vaincu l'an dernier. Alors quand on regarde la situation l'année dernière, on avait le sentiment que le vainqueur régional, c'était indiscutablement l'Iran. Ils étaient les vainqueurs en Syrie, avec les Russes bien sûr. Ils étaient les vainqueurs en Irak, avec une majorité de chiites de toute façon à l'intérieur de l'Irak. Tout semblait pour l'Iran dans le meilleur des mondes régionaux possibles. Et puis Monsieur Trump en a décidé autrement. Il a déclaré que bon, il n'est pas question que l'Iran puisse continuer de disposer de 10 ans de paix relative, puisqu'il avait été signé que de 2015 à 2025, ils avaient abandonné leur programme nucléaire, etc. Lui, il a dit, bon, je romps ce pacte. Maintenant, j'estime que l'Iran ne joue pas le jeu. Et je m'appuie essentiellement sur l'Arabie Saoudite, d'une part, et naturellement aussi sur Monsieur Netanyahou, israélien. Bon, donc la situation devient beaucoup plus complexe à l'intérieur de l'Irak.
Donc vie politique dictée jusque-là par l'Iran et les États-Unis.
C'est ça. Alors aujourd'hui, les Iraniens, ils se sentent en position défensive. Les temps vont être difficiles. Nous, Européens, par exemple, nous avons répondu à Monsieur Trump, nous préférerions continuer à honorer les engagements qui ont été pris en 2015. Bon, combien de temps est-ce qu'on va réussir à tenir face à Monsieur Trump? À mon avis, peu de temps. Pourquoi? Parce que pendant, finalement, des années et des années, nous n'avons pas véritablement œuvré pour renforcer notre capacité de dire non face aux États-Unis, ni sur le plan de la rigueur politique, ni sur le plan des moyens militaires.
Sur les législatives qui sont le point de départ de l'alliance qu'on a évoquée, qui est au pouvoir désormais en Irak, qu'est-ce que vous pouvez en dire justement du scrutin du 12 mai? D'abord, il y a eu un taux d'abstention record.
Oui, énorme, plus que la moitié, ce qui est quand même fantastique. Mm-hmm. Je crois que c'est 44% de votants. Bon, c'est faible. Deuxièmement...
Alors que c'était des élections... historique, c'est un scrutin...
Très importante, c'était le scrutin de l'avenir, en quelque sorte. Hein. Une page est tournée, la guerre est terminée, qu'est-ce qu'on fait de l'avenir?
Alors, pourquoi aussi peu de mobilisation, déjà?
Parce que nous sommes dans une situation complexe où on ne sait pas très bien où on va, il y a beaucoup de déceptions, on ne sait pas très bien qui va l'emporter, ni où on se dirige. Bon, en gros, si vous voulez, de deux choses d'une. Ou bien l'Iran, pendant quelque temps, va avoir une influence majoritaire, ou bien on va sentir que les États-Unis ou ceux qui sont de leur côté, comme par exemple l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a fait beaucoup pour séduire. Ils ont proposé des contrats intéressants du point de vue pétrolier, pétrochimique, du point de vue de l'énergie, du point de vue de l'agriculture. Enfin bref, ils sont arrivés avec des biscuits sérieux. Et ils espéraient que Monsieur Sadr, qui n'est pas un inconnu, il est là depuis 2001, Monsieur Sadr, c'est-à-dire qu'il est là depuis le début du début. Monsieur Sadr,
ces milices ont combattu notamment les forces d'occupation américaines,
absolument,
lors de l'invasion de 2003.
Ah oui, avec beaucoup de détermination. Il est le fils d'un d'un dignitaire religieux extrêmement important. Il a une, comment dirais-je, il est très suivi dans les faubourgs par du populaire. Bon, alors on a eu l'impression que il était en train peut-être de s'entendre avec le Saoudien, puis pas du tout. Volte-face.
Oui, il a effectué un voyage en Arabie Saoudite. Ennemi de l'Iran.
À 180 degrés.
Et finalement, Salis va faire alliance avec des miliciens pro-iraniens.
Assez caractéristique du chiisme, c'est-à-dire que en matière, comment dirais-je, de tactique, on est extrêmement souple. Et là, on se retrouve dans l'inattendu. C'est-à-dire que ceux qui sont aujourd'hui du bon côté, c'est-à-dire du côté des gagnants apparents en tout cas, c'est les pro-iraniens.
Alors on va passer la parole à présent à Myriam Benrad. Merci pour cette première analyse, Gérard Chalion. Myriam Benrad, est-ce que vous partagez la même analyse que Gérard Chalion? Est-ce que finalement aujourd'hui l'avenir de l'Irak est entre les mains des puissances étrangères?
Écoutez, je partage beaucoup des points de vue de Gérard Chalion, peut-être avec quelques nuances. Bon, tout d'abord, il n'y a pas fondamentalement de remise en cause du rôle qui est celui de l'Iran, même s'il y a ce bras de fer avec les États-Unis de Trump aujourd'hui. Mais enfin, l'Iran reste un acteur de premier plan. D'ailleurs, la formation de ce gouvernement, elle a été faite avec l'aval à la fois des Américains. Il y a eu un communiqué pour les rassurer, pour rassurer Washington. Mais elle s'est faite, cette formation du nouveau gouvernement, elle s'est faite aussi avec l'aval des Iraniens. Ça, il ne faut pas être dupe. Donc, bon, il y a un affaiblissement, je dirais, circonstanciel de la position iranienne dû à cette confrontation avec les États-Unis, mais ça ne signifie pas que l'Iran, qui cultive depuis de très longues années son influence dans le pays par différents canaux, ne va pas la conserver. Bon, par ailleurs, un des acteurs de cette coalition, donc les fameuses forces de la mobilisation populaire qui ont en effet livré la guerre contre l'État islamique, ont des liens historiques et maintenant très profonds avec l'Iran. Ce qui est d'ailleurs aussi le cas de Muqtada Assad, qui a été, je veux dire, un acteur un peu plus volatile, un peu plus inconstant, qui a toujours joué la carte nationaliste face à toutes les influences extérieures, mais qui lui aussi a un rapport étroit à l'Iran.
Donc, oui, c'est ce qui est en commun finalement, ce qui est en commun des forces qui aujourd'hui sont au pouvoir en Irak, c'est qu'à chaque fois on a l'impression qu'il y a un sentiment anti-américain qui est très fort. Soit c'est proche de l'Iran, les milices qui font alliance avec Muqtada Assad, soit lui qui n'est pas pro-iranien, mais en tout cas qui est clairement anti-américain. Est-ce que vous partagez ce constat-là?
Ah oui, bah, Muqtada Assad a été du côté chiite un des grands opposants aux Américains. Il avait livré la bataille à Najaf en 2004 contre l'armée américaine. D'ailleurs, à l'époque, il y avait toujours une solidarité entre insurgés sunnites et chiites, qu'il a essayé en quelque sorte de relancer lors de différents épisodes du conflit. De toute façon, c'est une figure d'opposition à la présence américaine. C'est aussi une position partagée par les chefs de milice qui, au moment où la bataille était livrée aux djihadistes sur fond de frappes aériennes, ont fait un certain nombre de déclarations extrêmement hostiles aux États-Unis. Donc ça, c'est une constante de ce schisme politisé militant qui, depuis la chute du régime de Saddam Hussein, passe des alliances avec un certain nombre d'acteurs pour conserver le pouvoir, un pouvoir qu'ils ont acquis au terme de cette mise à bas de l'ancien système, et qui dans le même temps joue beaucoup sur la connotation nationaliste. Attention aussi d'ailleurs, au niveau, je rajoute une chose, le fameux Hajj, les forces d'amélioration populaire, se réclament aussi du nationalisme irakien. Donc il y a cette alliance à l'Iran et en même temps cette volonté de s'institutionnaliser en jouant la carte irakienne.
Alors le schisme justement prôné par Muqtada Assad, est-ce qu'il peut s'affranchir de l'Iran?
Bah écoutez, de toute façon, il n'y a pas un schisme en Irak. Hein. La majorité des chiites sont des chiites duodécimains. Il est vrai qu'il y a une solidarité qui s'est créée entre un certain nombre d'acteurs politiques, de forces, de communautés parce que le destin des chiites d'Irak a été un destin marqué par l'oppression, la répression bassiste et un certain nombre d'événements dramatiques. Mais la famille, la grande famille chiite irakienne est extrêmement divisée. C'est d'ailleurs aussi reflété géographiquement. Les forces représentées à Bagdad vont rencontrer un certain nombre de résistances dans les provinces du sud, par exemple, qui sont dans une logique autonomiste au même titre que les Kurdes depuis maintenant de nombreuses années. Donc il faut faire attention à ne pas essentialiser ces identités qui, en fait, recouvrent de nombreux clivages.
Gérard Chalian, on a quand même l'impression aujourd'hui que la balle est soit dans le camp des États-Unis, soit dans le camp de l'Iran concernant l'Irak. Est-ce que ça veut dire que l'Irak n'est pas capable aujourd'hui d'avoir ne serait-ce que le début d'une identité politique ?
Bah, c'est-à-dire que l'Irak est le lieu clos d'un certain nombre d'intérêts qui sont extérieurs. Pour l'instant, à mon avis, le mieux placé entre les États-Unis et l'Iran,
c'est l'Iran.
C'est l'Iran parce qu'il y a 10 ans de travail au bas mot, même plus, enfin depuis 2003, ça fait 15 ans de travail. Les États-Unis ont accumulé les erreurs, la première étant la guerre de 2003. Ensuite, leur incapacité à comprendre la situation de 2003 à 2011. En définitive, ils sont repartis la queue basse en n'ayant rien réglé. Après ça, ils sont revenus en essayant de peser, mais sans prendre les moyens de le faire. Alors maintenant, ils se sentent un peu renforcés par la présence de Monsieur Salman, le patron de l'Arabie Saoudite, qui a des propositions intéressantes. Mais enfin, à mon avis, ils vont pas l'emporter. Donc l'Iran, pour l'instant, se trouve dans la meilleure situation possible et ils ont intérêt à ce qu'elle le demeure dans la mesure où, quand même, c'est un pays essentiellement, majoritairement chiite.
Et c'est un facteur de stabilité ou non, selon vous, cette influence grandissante de l'Iran concernant l'Irak ?
Bah, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en Irak, c'est un facteur de stabilité. En Syrie, ça peut se discuter, mais en Irak, indiscutablement, l'influence de l'Iran, l'Irak retourne dans le giron iranien auquel il appartenait jadis.
Myriam Benrad, vous partagez cette lecture des choses, l'influence grandissante de l'Iran, voilà, dans le nouveau paysage politique irakien, facteur de stabilité, comme le dit Gérard Chalian?
Écoutez, là où Gérard Chalian a entièrement raison, c'est que l'Iran, en effet, travaille le terrain irakien depuis maintenant 15 ans, depuis 2003. Bon, d'ailleurs, à l'époque, les Saoudiens avaient déclaré, avaient entretenu avec l'administration de George Bush en disant qu'en faisant la guerre à Saddam Hussein, on offrait le pays sur un plateau d'argent aux Iraniens. Bon, on voit que c'est le cas. Et ces liens, ils sont à la fois politiques, militaires, mais aussi, attention, culturels, religieux. Bon, c'est une proximité historique qu'on ne peut pas nier. Alors maintenant, au niveau de l'influence iranienne et du jugement qu'on porte sur celle-ci, tout dépend de, je dirais, dans quel camp on se trouve. Du côté chiite, cette présence est une garantie de survie. On l'a vu avec la bataille contre l'État islamique, les chiites ont eu besoin de l'appui iranien. D'ailleurs, c'est le cas des Kurdes aussi, qui ont été avant tout aidés des Iraniens avant de recevoir l'appui militaire américain. Donc les Kurdes aussi sont, pour certains groupes, relativement proches des Iraniens. Maintenant, du côté sunnite, il est évident que la perception est totalement différente. L'Iran est diabolisé, l'Iran est synonyme de leur marginalisation, et donc de la montée en puissance du djihadisme qui a fait ses armes aussi sur ce cours ultra-sectaire de rejet de toute influence iranienne, de l'Iran, de tout ce qui touche à cette religion et à la culture qui s'y associe.
Donc la nouvelle donne politique modifie le rapport de force, je dirais, entre chiites et sunnites en Irak ?
Écoutez, non. D'ailleurs, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que la déception va être grande, à mon avis, au niveau des Irakiens, parce qu'il faut quand même savoir que ces deux forces qui ont remporté les élections avaient promis un changement radical, la mise à plat du système politique qui a été mis en place après 2003, et qui était un système, déjà à l'époque, qui avait été négocié entre Iraniens, en partie, États-Unis et, à l'époque, les Nations Unies. Bon, en tout cas, la figure de Sistani du côté chiite avait été instrumentale. Et en fait, ce qu'on voit avec ce gouvernement, ces coalitions qui se rassemblent, les ouvertures qui sont faites à différents acteurs, c'est que ce système, eh bien, ne va pas changer. Donc on conserve un système pourtant que les gagnants ce scrutin avait promis de réformer. Donc j'ai bien peur que malheureusement on ne s'oriente pas vers le changement qui est requis et qui est surtout revendiqué par une majorité d'Irakiens, qu'ils soient sunnites, chiites, kurdes.
Ouais, notamment la lutte contre la corruption qui était un petit peu un des maîtres mots de la campagne. Vous partagez cette lecture des choses également, Gérard Chalian?
Oui.
Les choses ne vont pas changer radicalement, même si c'est un paysage politique assez inédit, une alliance en tout cas assez inédite au pouvoir en Irak?
Non, en ce qui concerne la corruption, il n'y a rien de sérieux d'entamer. Ce qu'on peut dire, si vous voulez, pour rester dans les généralités, c'est
pourtant,
que...
Pourtant, Moqtada Sadr, dont on parle beaucoup, a fait campagne contre la corruption. Clairement, il s'est dit, je suis le chantre de l'anticorruption.
C'est vrai.
On peut le croire?
Disons que c'est une carte qu'il a jouée. Je ne sais pas jusqu'à quel point il peut peser en ce sens. Tout ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que le pays, grosso modo, est à 60% chiite, à 20% sunnite et à 20% kurde, et que le chiisme est extrêmement important en Irak, d'où la position privilégiée de l'Iran. Et ça, c'est une partie de bras de fer qui se joue avec les partisans de Monsieur Trump, ses alliés, dont l'Arabie Saoudite, etc., qui, depuis longtemps déjà, s'inquiète beaucoup de la montée du chiisme et de l'Iran.
Alors, justement, la montée du chiisme et de l'Iran, on l'a bien évoqué. Myriam Benrad évoquait cependant une multitude d'acteurs. Effectivement, on s'attend à une coalition extrêmement élargie, 7, 8, voire 10 listes qui sont évoquées. Est-ce que là, il n'y a pas un risque de confusion? Comment s'entendre?
Voilà, je peux pas vous répondre, c'est très difficile. Je veux dire, on est en pleine coalition confuse et incertaine. Vous avez vu comment Monsieur Sadr est passé d'un cheval sur l'autre. Donc on ne sait pas comment ils vont s'arranger. La situation va être confuse et difficile dans la mesure où on n'est pas du tout dans la clarté. On se joue des coups fourrés. Les Américains et les Saoudiens veulent grignoter les positions iraniennes et les Iraniens ont absolument intérêt, au contraire, à avoir là une base solide.
Myriam Benrad, vous avez confiance, vous, dans la nouvelle coalition attendue à la tête de l'Irak?
Écoutez, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, ce qu'on constate quand même avec, comme vous le disiez, le gouvernement élargi, les gestes qui sont faits vers des acteurs qui... par ailleurs, n'ont pas enregistré des scores très importants. Par exemple, le vice-président Iyad Alaoui, qui n'est plus un acteur de premier plan depuis les élections de 2010, mais qui a autour de lui un certain nombre de figures sunnites. Ce qu'on voit surtout, quand même, c'est qu'il n'y a aucun renouvellement des élites politiques. Pourtant, ça faisait aussi partie des promesses de Moqtada al-Sadr, qui avait dit que... et d'ailleurs, Sistani aussi, du côté chiite, avait fait cette déclaration, qui avait dit qu'il était temps de renouveler les élites, des élites qui ne sont pas représentatives, en tout cas pas reconnues comme telles, par une majorité de citoyens. Et malheureusement, à mon avis, il est vrai qu'il y a beaucoup de confusion, mais vu les premiers engagements qui sont passés entre acteurs, les tractations en cours, j'ai bien peur, encore une fois, que le renouvellement, le changement, le grand changement promis ne se produise pas.
D'où le désenchantement d'ailleurs observé dans les urnes avec l'abstention record qu'on a évoqué en début d'émission. Et justement, cette nouvelle organisation politique éclatée, est-ce qu'elle peut faire craindre le retour du groupe État islamique qui a été au pouvoir en Irak? En tout cas, le retour d'attaque.
Le groupe...
Non.
Oui, c'est déjà le cas.
Non, non, des Gérard Chalian, oui, vous dites Myriam Benrad.
Tout dépend de la perspective qu'on adopte. Il est évident que l'État islamique aujourd'hui n'est plus un groupe qui contrôle un territoire et qui est dans une logique de construction étatique, mais le groupe est revenu à ses origines, c'est-à-dire la guérilla urbaine, les opérations clandestines, les assassinats. Il y a eu un certain nombre d'attaques qui ont frappé Bagdad au cours des derniers jours, qui frappent d'autres provinces aussi. Il faut s'attendre à une insurrection de longue haleine. Mais ça, d'ailleurs, je pense que c'était très clair au moment de la libération de Mossoul. On a eu toutes ces déclarations, finalement, du côté américain et irakien, que la guerre était finie, mais cette violence, elle est endémique, elle dure depuis aussi 15 ans. Cette insurrection sunnite, elle est à la cour depuis 15 ans. Et surtout, aucun des griefs qui sont propres aux sunnites n'est résolu avec cette élection. Donc il faut faire attention à ne pas extrapoler. C'est vrai que c'est un scrutin historique, mais en même temps... Il y a des réformes de fond structurelles à engager et là, c'est vraiment l'enjeu pour tout gouvernement.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Myriam Benrad, professeure en sciences politiques et en études de sécurité. Merci à vous, Gérard Chalian, géopoliticien spécialiste de l'étude des guerres et des conflits armés internationaux. Merci d'être à l'écoute de RFI. C'est la fin de ce débat. Retour de l'info dans 30 secondes.